Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette petite émission de mise en bouche de ce qui se passe en ce moment sur les métaux, sur l'or, sur le cuivre, sur le nickel. Il se passe plein de choses. Mais avant de rentrer dans le gras du sujet, qui est quelque chose d'important parce qu'il se passe effectivement pas mal d'évolutions sur les marchés, j'aimerais reprendre un petit peu les fondamentaux de ce qui est notre enseignement à l'Université de l'Épargne, que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu et qui est expliqué dans l'excellent livre de Charles que je ne saurais trop vous conseiller d'acheter, d'acquérir, qui est « Cessez de vous faire avoir » et qui, pour les étudiants de l'Université de l'Épargne, est fourni dans la formation parmi les dossiers. La première chose qu'on apprend dans ces quatre cadrans, qui a été publié pour la première fois par Charles en 78, c'est que l'idée est assez simple, c'est que le prix des actifs est en général déterminé par l'interaction entre la croissance et l'inflation. Donc vous vous retrouvez en général avec une abscisse, une ordonnée, que sont croissance et inflation. Et vous avez à l'intérieur de ça quatre scénarios possibles. Un boom déflationniste, un boom inflationniste, un effondrement qu'on appelle bust en général inflationniste et un effondrement déflationniste. On peut retenir que la plupart du temps, le boom déflationniste peut en général être considéré comme l'état naturel du capitalisme. En général, tout capitaliste essaie de faire plus avec moins et c'est en général pour cela que le capitalisme va être considéré structurellement comme à sa source profondément déflationniste. À l'inverse, les banquiers centraux, les gouvernements, nos sociétés qu'on va appeler pseudo-démocratiques sont fondamentalement toujours créatrices de booms inflationnistes puisque en général un banquier central ne sait faire qu'une chose, faire du QE, appuyer sur la planche à billets et imprimer. Donc on se retrouve en réalité avec ces deux états plus ou moins naturels dans nos mondes modernes, occidentaux, de boom déflationniste et de boom inflationniste qui se tuilent plus ou moins heureusement suivant les époques. Lorsque les banques centrales sont trop accommodantes, les économies passent à la phase de boom inflationniste du cycle. Lorsqu'elles sont trop restrictives, c'est l'inverse qui se produit. Alors, les réévaluations en général affectent les bilans des banques, les systèmes, et on peut entrer dans ces cas-là dans des phases aussi de récession inflationniste. Et ça, c'est un peu, quand on regarde les quatre cadrans dans les allocations d'actifs, où est-ce qu'il faut se placer dans les quatre, c'est les moments où on se dit qu'il faut aller, c'est en général en bas, à droite, à gauche.
Oui, c'est en bas, attends, le boom inflationniste. Le bust inflationniste.
Non, là, je parle du bust déflationniste.
Le bust déflationniste, c'est en bas à droite.
En bas à droite, voilà. Quand on se retrouve là,
il faut bourrer comme une bête.
Voilà.
Et entre vous et moi, c'est là où est la Chine aujourd'hui.
Et il arrive qu'à parfois aussi, que pour une raison quelconque, le prix de l'énergie commence à augmenter.
Oui.
Ça peut être dû à des développements géopolitiques ou simplement. Ça peut se faire aussi que la demande d'énergie surpasse l'offre.
Ben ça, à ce moment-là, c'est qu'on a un bon vieux cycle du cochon dont on a souvent parlé. C'est-à-dire que comme on ne gagnait pas d'argent avec le pétrole qui restait bas, personne n'investit. Au bout d'un certain nombre d'années, quand personne n'a investi et que la demande d'énergie augmente justement parce que la croissance augmente, et ben à ce moment-là, tu te retrouves avec une énergie insuffisante et le prix de l'énergie, à ce moment-là, monte de façon verticale. Je vais le montrer, c'est très curieux.
Voilà. Et aussi, lorsque la hausse du prix de l'énergie commence à dépasser la croissance des bénéfices et du PIB nominal, le risque que les économies entrent dans une récession inflationniste augmente considérablement.
Et là, c'est là où il y a les grosses gamelles.
Voilà. Alors, tout ça sont des questions qu'on va devoir traiter aujourd'hui et qu'on va voir avec vous. Alors, dans le contexte reflationniste actuel...
Oui.
Le prix de l'or.
Inflationniste, ça veut dire que les banques centrales mettent le pied sur l'accélérateur pour mettre plus d'argent dans le système.
Voilà. Le prix de l'or a été, et on l'a vu depuis 4 ans maintenant, le prix de l'or a été le premier à remonter en flèche. On a vu déjà dans d'autres émissions vers lesquelles je vous renvoie combien l'or était cyclique. Il est idiot, comme certains, de dire toujours bourré en or, parce qu'il est arrivé dans ces cycles.
De 1980 à 2003, l'or est passé de 800 à 250. Et c'est-à-dire que vous n'avez rien gagné pendant qu'il y avait le plus grand marché obligataire. bullish, il fallait acheter des obligations, et le plus grand marché des actions bullish. C'est-à-dire que vous avez perdu les trois quarts de votre capital, alors que les autres multipliés par 10. C'était donc une imbécilité totale d'avoir de l'or de 81 à 2003, 22 ans.
Par ailleurs, il faut toujours s'en souvenir, l'or ne vous donne pas de dividendes.
Non.
Donc, acheter de l'or, c'est vraiment vous dire, je vote avec mes pieds dans un système, parce que normalement, dans un système capitaliste bien fait, des actions devraient toujours faire mieux que l'or. C'est vraiment l'or, l'ultime refuge.
Et si elles ne font pas mieux, les actions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vérolé dans le système.
Quelque chose de pourri, royaume du Danemark.
Il y a quelque chose de pourri, c'est-à-dire que normalement, si vous faites un calcul sur long terme, il y a que le marché des actions fait mieux que l'or, en rentabilité totale, à cause du versement des dividendes. C'est le versement des dividendes qui fait que ça fait une différence. Et puis, si l'or se met à faire aussi bien, ou même mieux, que les marchés des actions en réinvestissant les dividendes, ça veut dire qu'il y a un gros problème de rentabilité du capital investi. C'est-à-dire qu'en en augmentant ton risque en achetant des actions, tu diminues ta rentabilité. Et ça veut dire qu'il y a un loup, là.
Parce qu'encore une fois, ce que vient de dire Charles est important. Normalement, dans un vrai marché capitaliste, le prix du risque devrait être quelque chose. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste ? On assiste non seulement, donc on y vient, à une montée de l'or, mais à une montée de tous les métaux précieux, ce qui est un renforcement...
Et maintenant, des métaux industriels.
Et des métaux industriels, ce qui est un renforcement pour dire que les marchés sont en train de dire « dis donc, ça va pas du tout, nous, on voudrait avoir des actifs sans risque ». Encore une fois, ça revient à la leçon qu'on avait fait sur les obligations, parce que normalement, dans un monde de risque, on devrait pouvoir acheter des bonnes obligations d'État, comme dans le temps de la Bundesbank, en disant « écoutez, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, je me mets dans une position d'attente, je prends une petite obligation d'État, je prends mes trucs et j'attends », mais on ne peut plus faire ça. D'où un petit peu ce dernier recours, qui est celui de l'or, et des métaux précieux, où les gens se disent « bon, bah, je sais que ça ne va pas me donner de dividendes, je sais que je ne joue plus le système capitaliste. »
Moi, j'aurai mon capital.
Mais...
On va pas, mon capital
j'aurais
va
quelque
pas...
chose.
Voilà.
Alors, on se dit le platine est monté en flèche, l'argent, maintenant le cuivre, le nickel. Et par accessoire, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment exagéré d'imaginer que aussi l'énergie pourrait, dans un avenir pas si lointain, s'activer sur ce mouvement ?
Alors ça, c'est la question, évidemment, qui nous gêne beaucoup depuis qu'on a commencé l'université de l'épargne. C'est qu'aujourd'hui, les valeurs énergétiques fossiles, les Exxon de ce monde ou les Total, représentent en capitalisation boursière 3% de l'indice S&P. En 2000, c'était en 1983, donc à leur plus haut, elle faisait 30% de l'indice. Donc, si tu achetais l'indice en 1983, tu étais naturellement protégé contre une hausse de l'énergie. D'ailleurs, à ce moment-là, l'énergie s'est mise à baisser. Tu vois, c'est juste pour te faire brère, quoi. Enfin, c'était normal. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'indexation va les protéger, puisqu'ils ont des valeurs d'énergie. Mais ils ont que 3%.
Et voilà.
Donc c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça, si vous voulez, je dis aux gens, bon, dans la construction d'un portefeuille, avoir un portefeuille, alors que le principal danger pour le marché des actions, c'est une hausse de prix d'énergie. Si tu n'es hedgé, en quelque sorte, que à 3%, tu peux dire que tu n'es pas hedgé du tout. Donc, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Alors, les gens me disaient, oui, il y a du pétrole, on s'arrête.
Oui, parce que, attends, dans ton article, tu disais aussi la chose suivante. En tant que vieux boursier qui en a vu des vertes et des pas mûres, là, normalement, tout le monde, avant, avait au moins 30%.
Ben oui.
Pour, comme roulement, comme quelque part protection.
Et quelque part, comme les obligations américaines te permettaient d'acheter de l'énergie, si tu faisais un portefeuille qu'on appelait balance, c'est-à-dire où tu avais de l'énergie et des obligations américaines, les obligations américaines qui te permettaient de l'acheter de l'énergie, en cas de hausse de l'énergie, ben, tu pouvais acheter, ça balançait, tu vois. C'était... Mais aujourd'hui, elle ne te protège plus contre rien, elle te protège contre rien du tout. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est de dire aux gens, faites attention, parce que
là, si vous arrivez sur un obstacle, vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de genouillère, vous n'avez pas de coudière.
Vous n'avez rien, vous gamelez. Et donc, le vrai problème que je dans la gestion à laquelle il faut faire face aujourd'hui, c'est de dire, on m'expliquait qu'il n'y avait plus de croissance dans le monde, que c'était fini, qu'on allait vers la décroissance, qu'il fallait sauver la planète.
On connaît les clubs de Rome.
Les clubs de Rome, et ça fait 40 ans que ça se dure. Et donc, bah, si je veux, plus personne n'a investi ni dans les mines de cuivre, ni dans les, ni dans les mines d'argent, etc. Et donc, pendant les 10 dernières années, ils n'ont rien fait. Et puis, d'un seul coup, là, ils viennent de péter à la hausse. Donc, ce qui commence à me foutre la trouille, c'est que je me dis, bon, tout le monde m'expliquait que de l'argent, il y en avait, à savoir qu'en foot, il suffisait d'aller chercher l'argent qui avait déjà été cherché et trouvé, et que puis le remettre dans le système, tu vois. La même chose pour le cuivre. Il y a des tas d'installations de téléphones d'autrefois qui avaient plein de cuivre, tu vas le chercher, tu n'avais pas besoin de faire des mines de cuivre. Puis pendant 10-15 ans, on sait ce qu'on a fait. Mais maintenant, ça pète à la hausse. Ça veut dire que la croissance, dont on m'expliquait qu'elle était finie, que c'était une notion passée, que est en train de repartir comme une fusée en Asie. Et donc ce que je dis, c'est attention, faire de l'égal, la croissance économique revient à fond la caisse. Et donc ce qui est en train d'arriver au cuivre, etc., ça pourrait peut-être arriver à l'énergie, parce qu'on me dit il y a trop d'énergie dans le monde aujourd'hui. Oui, il y a trop d'énergie dans le monde s'il n'y a pas de croissance. Mais s'il y a de croissance, c'est fou ce que ça bouffe de l'énergie, la croissance. Donc je veux dire, l'équilibre instable qui est en train de se péter pour le cuivre et pour l'argent, à la hausse, et le suivant, ça sera peut-être le pétrole, et alors là, on va déguster sur les marchés.
Parce qu'autre chose, c'est pas le tout de dire il y a des mines ici, il y a des mines là, mais entre le moment où tu décides d'exploiter une mine et le moment où elle donne...
Il faut entre 5 et 10 ans.
Voilà.
Donc, et à condition que tu aies l'autorisation.
Voilà, et que tout se passe bien, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a vu par ailleurs, on a vu des réquisitions dans certains pays, on a vu, comme en Indonésie, aussi des restrictions sur les
on
marchés.
On a dit, ah, ça, on n'exporte plus.
Voilà.
Parce
donc,
qu'on le garde pour nous.
On le garde pour nous, et ça va commencer à faire des marchés avec des tensions.
Ben, c'est ça, et donc, à ce moment-là, ce qu'on voit très bien, c'est, tu sais, on a souvent parlé du cycle du cochon, les paysans, oui, le prix du cochon est très élevé, donc ils font plein de cochons. Donc l'année d'après, comme ils ont mis plein de petits cochons à engraisser, il y a plein de cochons qui arrivent, donc le prix s'écroule, les paysans restent de fait du cochon, et donc on a ce qu'on appelle le cycle du cochon, un truc d'un an, an et demi, où le prix du cochon est bas, haut, et en fonction de ça, les paysans font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Bon, ben, le cycle du cochon, ça dure un an, mais un cycle d'une mine de cuivre, etc., c'est entre 5 et 7 ans, c'est-à-dire que s'il y a une pénurie de cuivre qui commence aujourd'hui, tu veux dire que le cuivre risque de rester sous tension pendant 5 ou 7 ans, c'est-à-dire qu'il va se mettre maintenant à un niveau de cours où il y a toute une série de gens qui ne pourront plus l'acheter, tu vois, c'est-à-dire qu'on va éliminer tous les utilisateurs marginaux qui ne sont pas rentables. Et la même chose, eh bien, ça, c'est déjà désagréable pour le marché, pour les, parce que par exemple, le cuivre est très utile dans tout ce qui est électricité.
Oui, on le voit, bah, toutes les installations de trains utilisent des gros câbles en cuivre.
Oui,
à chaque fois qu'on est arrêté sur les rails, c'est parce qu'il y a des mecs qui les ont volés.
Parce que ça coûte cher.
Parce que ça coûte cher.
Ça rapporte beaucoup d'argent.
Ouais.
Il y a des gens qui font ça. Donc, alors, le vrai problème, c'est pour l'instant, ça ne touche que les métaux. On va vous le montrer. Mais la question, c'est, j'ai regardé, c'est historiquement, il est rare que les métaux montent comme des fusées parce que l'économie boom, sans qu'à un moment ou à un autre, l'énergie se mette à bouger aussi, parce que
c'est très corrélé.
Pour faire des métaux, il faut de l'énergie, tu vois ce que je veux dire?
Bah, oui.
Et donc, comment on doit faire pour des métaux, il va falloir plus d'énergie, et donc, bouf, on est parti dans un cycle où d'un seul coup, la demande à la place d'être inférieure à l'offre risque de passer supérieure à l'offre dans les, je sais pas quand. Et donc, voilà, c'est pour ça que, on a beaucoup parlé d'avoir une espèce de portefeuille où il y a de l'or, qui est une réserve d'énergie sous une forme très limitée, et puis peut-être quelques valeurs pétrolières aussi qui traînaient, c'est ce qu'on avait fait avec dans les portefeuilles.
Alors, je veux juste rappeler que depuis le début de l'année, l'or a progressé de 8%, le platine de 15%, l'argent, lui, a enregistré une hausse impressionnante de 32%.
Vous vous rendez compte? En même pas un mois?
Et il est aussi intéressant de noter que les métaux industriels sont désormais joints à la fête. Le cuivre a gagné 4%, l'aluminium 5% et le nickel 6%.
Et alors, le cuivre a une réputation très spéciale. On l'appelle le métal avec une agrégation en économie. Parce que quand le cuivre monte, en principe, ça veut dire que l'économie est en train de partir à la hausse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le... Et puis quand il baisse...
Oui, parce que quelque part, le cuivre est utilisé pour du ricardien. C'est de la croissance.
C'est la croissance, c'est vraiment... Donc que le cuivre se joigne à la fête, c'est déjà une nouvelle...
Structurellement intéressante, parce que ça envoie le message du développement du cercle de Valérie Pierris.
Ben voilà.
Que les gens ne veulent pas écouter, encore une fois, toutes occupées qui sont à ne regarder que du côté de l'IA. Mais bon, grand bien leur fasse, il y en a d'autres qui vont regarder, vous et nous. Et, Et ça changera comme message.
Et ça changera. Et donc l'Asie est en train de partir. Ça pose des questions sur le dollar, sur la valeur des monnaies asiatiques, etc. Mais le truc important que vous devez retenir, c'est que la période d'espèce de stabilité où il se passait rien sur les métaux qui durait depuis 2000, je vais regarder le graphique là, je vais vous le montrer, depuis 2008, depuis la grande crise financière, c'est fini. Et on a cassé non pas à la baisse, mais on a cassé à la hausse. Donc c'est déjà, tous les déclinistes sont en train d'avoir l'air idiot, quoi, tu vois, les Al Gore, etc.
Quelque chose d'important sont surtout les investisseurs asiatiques qui continuent d'acheter des métaux, alors que les investisseurs...
Parce que c'est là où est la croissance.
Oui, alors que les investisseurs occidentaux n'ont pas l'air d'être au courant. Et alors, pour que les investisseurs asiatiques cessent d'investir autant sur les métaux, il faudrait que le renminbi pète à la hausse. Ça a été, il y a eu un début de hausse là.
Ça commence à fluctuer.
Ou que le yen le fasse, mais le yen a décidé d'être désagréable.
Mais le yen, si vous voulez, oui, bien sûr, il est désagréable. Mais encore une fois, vous êtes Madame Watanabe. Vous pouvez emprunter à 0,50 au Japon pour acheter de l'or. Bien sûr qu'elle va continuer à le faire. Il faut qu'à un moment ou à un autre, ça devienne cher pour elle d'emprunter du yen pour acheter de l'or. Et donc, il faut ramener les taux au niveau japonais. Mais les Japonais sont... Donc, pour moi, ce que j'ai essayé d'expliquer dans les portefeuilles, c'est que la position or-Japon, c'était un peu la même.
Oui.
C'est-à-dire que c'était une position anti-fragile, parce que si jamais un jour les marchés des actions se pètent la gueule, à ce moment-là, le yen va monter comme une fusée. Donc c'est une position anti-fragile. Alors,
quelque part, si les gens achètent du yuan, du renminbi, c'est aussi une couverture métaux précieux.
C'est une couverture métaux précieux, et en même temps, soyons clairs, dans les périodes où les métaux accélèrent, etc., souvent, les hausses de prix accélèrent un peu partout dans le monde. C'est le début d'un boom
inflationniste.
C'est le début d'un boom inflationniste.
Bien sûr.
Donc, si t'es la Chine et que tu détestes l'inflation par-dessus tout, la façon d'empêcher cette inflation d'arriver chez toi, c'est de réévaluer. C'est-à-dire que, en fin, rendu en yuan, dans le fond, le cuivre reste au même niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'avaient pas de raison de réévaluer parce que, dans le fond, il n'y avait pas d'inflation dans le monde. À partir du moment où il commençait à avoir une inflation dans le monde, ils vont peut-être décider que laisser filer la monnaie à la hausse, c'est pas plus mal. Et ils ont des excédents des comptes courants de 1200 milliards de la balance commerciale qui est inouïe.
Là où on a un vrai problème, c'est quand tu fais des valorisations et que tu fais des valorisations des salaires américains par rapport à l'or.
Voilà.
Et là, la valorisation jamais été aussi haute.
Jamais les Américains n'ont pu acheter aussi peu d'or avec leur argent. Mais c'est pas vrai des...
C'est pas vrai des Asiatiques.
C'est pas vrai des Asiatiques, surtout si la monnaie monte.
Mais ça, ça envoie quand même un certain message.
Ça envoie un message qui est très net, et c'est vrai des Français aussi.
Oui.
C'est-à-dire que, quelque part, comme nous ne sommes pas productifs, comme nous n'épargnons pas, nous ne pouvons pas acheter l'outil d'épargne. Nous ne pouvons pas acheter l'or parce que simplement on ne gagne pas assez de pognon, quoi. Pour gagner de l'or, il faut que tu aies une épargne excédentaire pour la mettre en or.
Mais si tu regardes profondément aussi ce que ça veut dire ce que tu expliques toujours de fuite devant la monnaie.
C'est
parce
ça.
Que si tu calcules désormais, non pas par rapport à euro face à un euro ou dollar face à dollar, tu regardes ce que mon salaire peut acheter en or, et là tu te rends compte du pampan que tu as pris sur le temps long.
Exactement. Et c'est pour ça que dans les portefeuilles qu'on conseille dans l'université d'épargne, on a mis 25% d'or. C'était à la place des obligations. Normalement, dans un portefeuille géré, on aurait dû avoir des obligations françaises.
Oui, mais lesquelles ?
Mais aujourd'hui, comme ils ont tellement de dettes qu'on sait qu'ils veulent la détruire, cette dette, automatiquement, on est obligé de remplacer la monnaie locale par l'or, quoi. La question, c'est est-ce que les gens en Asie qui ont de l'or vont maintenant gagner de l'argent dans leur monnaie dans les 12 mois qui viennent ? Je pense que les Français, oui, ils vont gagner de l'argent sur l'or dans les 12 mois qui viennent, ça me paraît évident. Le Chinois, le Japonais, j'en suis pas sûr. Je veux dire par là, c'est que pour eux, il y a peut-être un moment, ils vont se dire, mais attends, je suis en train de perdre de l'argent sur l'or, faudrait peut-être que je m'achète des actions ou des obligations locales. Tu vois, c'était un peu le... Donc, c'est tout le truc. Alors, je vais essayer de montrer quelques graphiques pour essayer d'illustrer un certain nombre de points pour montrer Que nous sommes dans une période de changement, de transition. D'ailleurs, si les marchés montent comme ça pendant une semaine, depuis quoi, ça fait 3 semaines qu'on est en 2026. C'est déjà étonnant, c'est déjà beaucoup, quoi.
Même si ça fait 577 jours qu'on est en janvier, là.
Oui, oui. Alors, je vous montre le premier graphique, c'est justement le graphique de deux métaux industriels, l'argent et le cuivre. Et vous voyez, on peut dire que tranquillement, depuis la grande crise de 2008-2009, ça vazouille. Je les ai mis tous les deux bas 100 en 2011, vous voyez, après la crise. Ça vazouille entre 100 et 50, vous voyez. C'est-à-dire que ça bouge comme ça, il y a des hausses, des baisses, mais enfin, il n'y a pas de tendance, hein, c'est pas net. Et alors, depuis le début de cette année, depuis le début de 2025, ça pète à la hausse, comme j'ai rarement vu, ouais, surtout l'argent. L'argent, il y a des raisons techniques. Il y a des tas de gens qui sont à découvert l'argent parce qu'ils sont, en particulier, chambres de compensation d'argent. Bref, il y a des raisons techniques, mais l'argent et l'or pètent à la hausse. Plus que l'or, à la limite. L'argent et le cuivre. Plus
que
l'or.
Il n'est pas sur le graphique.
Non, donc,
l'argent et le cuivre.
Les cuivres qui sont des métaux. J'ai toujours dit que l'or est un métal monétaire. Mm-hmm. Il n'est que monnaie. L'argent, il est 60% monétaire et 40% industrie. Et le cuivre, c'est plutôt 30% monétaire et 70% industrie. Donc,
J'en profite pour faire une petite explication. Très souvent, certains d'entre vous demandent pourquoi Charles ne joue pas l'argent. Alors, encore une fois, dans les travaux que Charles a menés avec Didier, leur grande idée était d'arriver avec des constantes antifragiles. Et pour l'étude, il fallait quelque part une vision pure. Or, encore une fois, l'or est un actif, un métal monétaire pur. Or, l'argent est aussi utilisé dans l'industrie. Et à cause du fait qu'il soit utilisé dans l'industrie, il est un peu bicéphale. Il a une fonction industrielle et une fonction monétaire. Si bien qu'on ne peut pas véritablement sortir des courbes qui se répondent. Et ainsi, on l'a donc exclu des travaux d'antifragilité parce qu'on ne pouvait pas avoir une lecture véritablement...
C'est pas un outil parfait, c'est un outil mélangé, c'est comme une obligation convertible ou c'est comme une obligation de société. C'est à la fois une obligation et c'est à la fois société, donc ça a deux caractéristiques, ce qui fait que déterminer ce qui a un impact sur lui devient difficile, parce qu'il n'y a pas une variable, il y en a deux. Et donc là, ça veut dire que là, il est évident que la partie industrielle de la demande de cuivre et d'argent est en train d'exploser. Tu vois, c'est pour ça que... Parce que pendant cette période-là, l'or avait commencé à monter avant, tu vois. Donc l'or, monétairement, il a fait un petit moment, qu'il a fait beaucoup plus longtemps qu'il était en hausse. Mais là, ces deux-là sont en train d'exploser. C'est-à-dire que le deuxième moteur de ces marchés est en train de se mettre en route. Donc ça, c'est déjà la première des choses. C'est-à-dire que l'analyse qu'on a faite que 2026 sera une année de boom économique, ça a l'air d'être justifié.
Pas chez nous. Là-bas, hein.
Là-bas, oui, mais chez nous, oui. Ça fait rien, parce que nous, il faudra qu'on achète les entrants, c'est-à-dire les métaux ou l'énergie, au même prix que les copains. Si les copains font monter le prix, nous, on les aura pas moins cher parce qu'on est nuls. Hein.
Ah oui, non.
Alors, ça, c'est donc... La question, c'est... Le boom est en train d'arriver. La deuxième question, ce qui est... L'énergie. Le prix de l'énergie. Alors là, je vous montre celui-là qui est en quelque sorte rigolo, que je crois être le seul à avoir jamais sorti, qui est simplement le prix du marché des actions américains, le S&P, le marché dominant mondial, divisé par le prix d'un baril. Tu vois, c'est donc... Et tu vois que depuis 1900, à peu près tous les 30 ans, les marchés des actions font un plus bas par rapport à l'énergie. 1950, 1980, 2010. Tu vois ça, donc, tu vois aussi que quand même, c'est une grosse horizontale. Il n'y a pas vraiment de tendance. Et tu vois aussi qu'il y a des moments où, dans le fond, quand la ligne rouge monte, ça veut dire que le prix de l'énergie baisse. Et il n'y a rien de plus favorable au marché des actions. Donc, le marché des actions monte comme une fusée, là. Tu vois, c'est les années 80. Et puis quand la ligne rouge baisse, ça veut dire que le prix de l'énergie monte plus vite que le marché des actions. Donc ça devient de plus en plus difficile de gagner du pognon en transformant de l'énergie, quoi. Donc tu regardes ça, tu te dis, bon, on a eu donc ces baisses tous les 30 ans, c'est-à-dire que c'est le cycle du cochon à 30 ans, quoi. C'est à peu près ça. Puis quand ça monte, ça monte. Ça monte à chaque fois que ça bête. Et aujourd'hui, on est plus de deux écarts. Le marché des actions est plus de deux écarts types surévalués. Mais on n'est pas encore, la prochaine grande baisse devrait être, le plus bas devrait atteindre 2040. Donc on n'y est pas encore. Mais tu regardes quand on commence à être au-dessus de cette zone, c'est rare que ça monte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, on n'atteint pas le plus bas, mais à ce moment-là, la période d'expansion des multiples, tu sais, où les gens payent de plus en plus pour la même action, ça commence à... Donc, ce qui me fait peur, je me dis, c'est très bien tout ça, mais si par hasard, le prix de l'énergie se met à monter, la ligne rouge commence à baisser, la seule façon pour que la ligne rouge ne baisse pas, par exemple en Chine, c'est qu'ils réévaluent leur monnaie. Et tu vois, parce qu'à ce moment-là, ce sera leur intérêt, hein, parce que ils auront...
Bah, ça, c'est tous vos calculs sur la réévaluation du renminbi, mais le problème qu'on a, c'est que les Chinois sont dans une espèce de course à l'échalote avec les Japonais qui, eux aussi, tiennent un yen très bas. Alors, le font-ils tout seuls? Le font-ils parce que les États-Unis leur demandent de le faire? Parce
il va y avoir des élections maintenant au Japon. La Chambre a été dissoute.
Voilà, mais quand bien même il y aurait des élections, le Japon a un peu pris l'habitude dans son ensemble d'écouter beaucoup les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, si les États-Unis leur envoient des telex pour leur demander de tenir leur monnaie basse, en général, ils le font.
C'est peut-être une façon de coincer la Chine dans cette course. Donc, je ne sais pas, mais à un moment ou à un autre, c'est pour ça que je vous dis que beaucoup de choses changent à l'heure actuelle, parce que le Japon a obéi aux États-Unis depuis 1945. Bien. Mais imaginez que le Japon se rende compte que la croissance se passe dans le cercle Valéry Pierris, que ceux qui sont aux commandes, c'est plutôt les Chinois que les Américains n'arrivent plus à défendre cette zone militairement, et que donc ils peuvent plus jouer la carte de « je vais être désagréable avec la Chine parce que les États-Unis sont là pour me protéger ».
Oui, mais alors attends, parce que le Japon, il a deux mers. Il a la mer qui l'amène vers l'Asie, mais il a toute la mer aussi qui
est vers le Pacifique. Oui, il a tout ça. Mais quand même, si tu veux, il faut peut-être arriver à un moment au Japon à se dire les États-Unis seront peut-être pas toujours là, mais la Chine, elle sera toujours là. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, je trouve un modus vivendi avec la Chine.
Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde.
Il y a l'Inde, mais l'Inde, ça, les Japonais, ils s'entendent bien avec les Indiens. Ils ont fait des tas d'usines là-bas, justement. Et donc la question, c'est celle-là. Mais c'est une question importante, c'est celle de la réévaluation des monnaies. Mais le dollar, et ça c'est le deuxième point dont je voudrais parler aujourd'hui, le dollar, le marché des actions américains, continue à faire mieux que l'énergie, mais il fait moins bien que l'or. Et ça c'est nouveau. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui a acheté il y a 7 ans des actions américaines, il aurait mieux fait il y a 7 ans d'acheter de l'or. Il aurait fait mieux, même avec les dividendes. Donc, je vais vous montrer dans le passé ce qui s'est passé quand le marché des actions américains faisait moins bien que l'or. Ce qui se passait dans la structure des marchés. Alors, je vous montre le premier. C'est que vous avez le choix entre acheter des actions américaines ou des actions non américaines. C'est-à-dire, vous avez deux indices, le MSCI US, c'est-à-dire, tu n'achètes que des valeurs américaines, et le MSCI World ex-US, c'est-à-dire que toutes les valeurs, tous les autres marchés, l'Europe, la Chine, etc. Bon. Et ce que tu vois là, c'est la ligne jaune, c'est le marché des actions américains. Que tu compares à l'or, donc tu vois de 1980 à 2000, le marché américain fait beaucoup beaucoup mieux, tu vois, c'est absolument extraordinaire, tu passes de 40 à 400, donc il fait 10 fois mieux, tu vois. Et la ligne noire, c'est le ratio entre j'investis aux États-Unis et j'investis pas aux États-Unis. Et tu vois que chaque fois que l'or se met à faire mieux, les marchés hors États-Unis font mieux que le marché américain. Le seul cas où ça n'a pas marché, c'était la réunification allemande, où tu as eu cette espèce de truc qui était un peu un truc anormal. Or, aujourd'hui, depuis février 2025, c'est-à-dire depuis un an, tu vois que la ligne jaune baisse. Ça veut dire que pour la première fois depuis un grand moment, il faut vendre le marché américain pour acheter le marché non américain.
Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Les gens sont tellement sur le marché américain, sur l'IA, ben ils n'en peuvent plus.
Ils n'en peuvent plus, mais ce que je te dis, mais d'ailleurs, l'autre commence à faire mieux. Tu vois, la ligne noire commence à baisser. Donc moi, tu sais ce que les gens disent, alors là, il y a longtemps que je ne fais plus attention, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que le marché est en train de te dire, c'est que la rentabilité du capital investi aux États-Unis était tout à fait exceptionnelle, que ça a amené tout le monde à investir aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, probablement, tout le monde est bourré de valeurs américaines, et que la rentabilité du capital investi n'est plus exceptionnelle, puisque l'or fait mieux que le marché américain. Donc, l'argument de vente des États-Unis, il est... Je suis pas certain qu'il soit si bon que ça, quoi. Moi, je manque entre vous, je regarde la rentabilité telle que mesurée par l'or, tu vois. Donc là...
C'est pas un affect.
Ah, si tu commences à aimer les gens, les marchés, tu t'en sors plus. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est tu refais exactement le même graphique. Le rouge, cette fois-ci, c'est à la place du jaune de tout à l'heure. Ça veut dire que le marché américain fait mieux que les autres, que l'or. Quand la ligne rouge, ça veut dire qu'il fait mieux que l'or. C'est absolument remarquable. Et l'autre, c'est le dollar, la cotation du dollar dans un indice qui s'appelle le DXY, qui est un peu que beaucoup l'Europe, mais aussi le Japon. Et tu vois bien que quand les marchés américains font moins bien que l'or, le dollar, il a tendance à baisser. À chaque fois, là. Baisser même pas mal. Pourquoi? Parce que les Américains, t'as besoin de dollars pour acheter des valeurs américaines. Bon. Les États-Unis ont d'énormes déficits extérieurs. Donc, ces dollars apparaissent dans les comptes des étrangers. S'ils peuvent acheter des actions américaines avec cet argent, qui font mieux que l'or, ils se disent « je vais m'acheter des actions américaines » et ils n'ont pas besoin de changer leur monnaie, ils gardent en dollars, tu vois ce que je veux dire. Mais si l'or commence à faire mieux et leur marché commence à faire mieux que le marché américain, à ce moment-là, ils se disent « mais dans le fond, je ne vais pas acheter des valeurs qui font moins bien que les miennes, je vais changer le dollar et je vais acheter mes valeurs ». Et ça a commencé, c'est-à-dire que le dollar peut maintenant commencer à baisser assez fortement. C'est-à-dire que ce qui va poser des problèmes politiques aux États-Unis de financement de leur déficit budgétaire. Parce qu'à la place...
Alors justement, j'en profite, hier, j'ai vu passer un entrefilet sur BFM qui disait « oui, la dette des États-Unis est majoritairement détenue par des pays européens, donc nous avons là un immense moyen de pression sur M. Trump ». Alors, remarque toute personnelle, je ne pense pas qu'entrer dans une guerre de « qui c'est qui a la plus grosse massue avec Trump » soit forcément la façon de procéder à base de « je détiens ta dette, tu vas voir comme je vais te faire mal », parce que à ce jeu-là, Trump nous a montré qu'il pouvait taper avec des très très grosses massues. Donc, je pense que juste là...
Mais pourquoi on a des excédents en dollars? Parce qu'on a beaucoup vendu aux États-Unis, parce que nos monnaies étaient sous-évaluées, parce que à partir du moment où...
On met des droits de douane de 300%.
Et j'ai beaucoup expliqué que ce que voulait faire Trump, c'était rapatrier les usines aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si on vend les obligations? Nos obligations.
Du trésor américain.
Du trésor américain, whatever. Il va dire, les gars, aux banques, vous les achetez, et on va laisser le dollar se péter la gueule. Et à ce moment-là, tu peux fermer l'industrie allemande.
Déjà que le Japon et la Chine.
Ils ont du mal. Alors là, c'est le coup de grâce, là. Donc. Ces crétins s'imaginent que...
À Bruxelles, parce que c'est les crétins de Bruxelles qui disent « Nous, on détient de la dette américaine, vous allez voir. »
On va la vendre et ça va faire monter les taux d'intérêt quand on la vendra. Ben pas du tout si c'est acheté par les banques. Il y a des réserves obligatoires de zéro sur la dette américaine pour les banques américaines. Donc elles peuvent absorber cette dette, ce qui fera monter M2, la masse monétaire, ce qui sera inflationniste. Mais en même temps, à ce moment-là, si tu veux, les autres vont se retrouver avec du cash en dollars qu'ils seront obligés de vendre. Et donc, à ce moment-là, le dollar s'écroule. Et tu fermes Mercedes, quoi. Donc, ces crétins s'imaginent qu'ils ont une larme absolue. Ils n'ont rien du tout. Ça prouve simplement qu'ils ne comprennent pas les flux financiers. Mais là encore, ça veut dire qu'ils vont...
Sommes-nous surpris ?
Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une sur... Alors, les gens disent, moi, je m'en fous, j'ai l'indice mondial. Je leur dis, bougez pas, l'indice mondial, il est aujourd'hui à 70% aux États-Unis. Donc, vous croyez que vous avez un portefeuille diversifié, que vous avez les pays, mais en fait, vous êtes 70% aux États-Unis. Et dans aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, vous devriez être au maximum à 50% aux États-Unis, même peut-être en dessous. Donc ça veut dire que si vous croyez que vous êtes diversifié parce que vous avez acheté le MSCI World, il n'est pas diversifié parce que comme les États-Unis surperforment depuis 15 ans, ben les États-Unis sont beaucoup plus gros qu'ils n'ont jamais été, quoi.
Oui.
Donc...
Donc ce n'est pas une très bonne idée de conserver son MSCI World.
Non, il faut simplement, si vous voulez, que vous achetiez, et j'ai le troisième élément, le S&P Equally Weighted.
Oui, tu le dis souvent.
Et que vous mettez 50% dans l'Equally Weighted, si vous voulez, et 50% dans le MSCI World ex-US. Lui, il approuve bruyamment. Donc là, c'est le troisième élément. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments sur lesquels je réfléchis depuis longtemps pour arriver à une construction aussi rationnelle que possible des portefeuilles. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me planter. Mais c'est celui qui s'appelle le ratio MSCI Market Cap Weighted divisé par MSCI Equally Weighted. Alors, c'est un phénomène. C'est deux indices. Vous avez des ETF qui d'ailleurs les représentent tous les deux. Hein. Donc, c'est très facile à acheter. C'est très, très bon marché. Où vous avez les 500 valeurs américaines, et puis le premier, vous calculez l'indice en fonction de la capitalisation boursière de chaque valeur. C'est-à-dire que maintenant, les 7 grandes valeurs, les 7 magnifiques, là, aujourd'hui, doivent faire 35% de l'indice. Et puis vous avez le deuxième indice, où vous achetez un 500e, compte tenu de... Donc c'est un indice qui est complètement... Dans lequel il n'y a pas de... Donc ça veut dire que tu achètes l'industrie américaine, le commerce américain. Donc si le dollar baisse, tu peux penser qu'il y a des entreprises américaines qui vont devenir compétitives, tu vois. Mais c'est pas certain que ça va bénéficier aux 7 magnifiques, parce que, bah, pour une raison très simple, c'est que le PE ratio risque de baisser. Donc là, je vous montre le même... cette fois-ci, et c'est pour vous montrer que ben aujourd'hui, nous arrivons à un moment où il faut sans doute vendre le S&P Market Cap Weighted, c'est-à-dire les 7 magnifiques, et acheter le S&P Equally Weighted, c'est-à-dire un 500e. Donc, grosso modo, ça paraît compliqué ce que je dis, mais ce que je vous dis est assez simple, c'est 1. Il est probable qu'on rentre dans une baisse du dollar. Deux, je vois pas tellement pourquoi cette baisse du dollar serait contre l'Europe, parce qu'elle n'est pas dans une santé flamboyante. Donc logiquement, ça devrait être contre les principaux compétiteurs des États-Unis. Je pense pas que ce sera l'yen, mais ce sera sans doute la monnaie chinoise, ce qui sera un élément important de victoire pour les Chinois, en quelque sorte. Donc la première des choses, c'est que si le dollar baisse, ça veut dire qu'il faut pas vraiment avoir ni de... Il faut pas avoir de grosses valeurs, puis il faut pas avoir de cash ni d'obligations, parce que vous allez vous faire massacrer. Donc ça veut dire qu'il faut que vous achetiez en quelque sorte, si je devais jouer à l'extrême ce que je dis, je mettrais 50% aux États-Unis, peut-être 25% dans les grandes affaires industrielles, l'indice MSCI, l'affaire industrielle européenne, qui sont de très belle qualité, et 25% en actions asiatiques. Tu vois, ça me permettrait, ce serait un bon portefeuille bien balancé. Et je, les États-Unis, je changerais du market cap weighted au non cap market weighted. Donc, c'est un moment extraordinairement important où, dans le fond, vous avez deux ou trois grandes périodes. Là, mettons, pour reprendre ce que disait Emmanuel au début, le boom déflationniste américain. Bon. C'était le moment où il fallait être bourré de valeurs de technologie, tout ça. Bon, très bien. Il semble qu'on soit en train d'en sortir pour aller vers un boom inflationniste. Bon. C'est déjà quelque chose une nouvelle importante, tu vois. Dans ce cas-là, si les États-Unis rentrent dans un boom inflationniste, il est probable, comme les taux d'intérêt resteront trop bas, que le dollar va se péter la gueule. La question, c'est contre qui ? Ben, contre les gens qui sont vraiment compétitifs, c'est-à-dire plutôt l'Asie, ou mes belles valeurs industrielles européennes. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et la troisième truc, c'est de dire, mais si on rentre dans un monde inflationniste, il est probable que les taux nominaux sur les obligations d'État vont devoir monter, parce qu'ils seront trop bas aujourd'hui. Et à ce moment, ça pose à nouveau la question dont on a souvent parlé, c'est-à-dire la capacité de la France à avoir des taux nominaux qui montent.
Oui, alors on a vu la pression qu'a exercée et qu'exerce M. Trump sur M. Powell pour justement influer sur les taux. Et je n'ai aucun doute que nos banquiers centraux, Mme Lagarde ou son successeur, continuent des politiques de taux bas, même ou des taux guère très hauts, parce que tel est leur besoin.
J'entends bien, mais c'est penser que les banquiers centraux sont capables de tenir des marchés. Alors, ils tendront peut-être les taux à court terme, mais les taux à long terme risquent de s'envoler à la hausse, parce que ça, ils ne peuvent pas les contrôler. C'est beaucoup trop gros. Personne ne peut contrôler les taux à long terme.
Alors, j'aimerais bien juste faire un petit aparté, parce qu'on a parlé de l'énergie, mais on n'a pas regardé le sujet de l'électricité. Or, il y a quand même une vraie question qui se pose aux Absolument. États-Unis dans l'électricité, qui est qu'aujourd'hui, l'IA a augmenté considérablement le besoin, la demande d'électricité, et que de plus en plus, les autorités politiques, lancées par les démocrates, disent, écoutez, il n'est quand même pas normal que le petit peuple, quelque part, perde son électricité aussi chère, et on va demander à des gens de plus en plus, comme Microsoft, de dire, les gars, c'est quand même à vous de développer vos besoins électriques et ça n'est pas à la collectivité... Votre offre électrique. Et ça n'est pas au pouvoir public ni au petit peuple de prendre ces coûts. Or, c'est important parce que ça a une portée inflationniste potentiellement.
Ben, d'abord, c'est à ça. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand tu réfléchis ? Ça veut dire que l'électricité dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle une « utility ». C'est-à-dire un service public, en quelque sorte.
On a tous besoin de gaz, d'électricité,
Donc le gouvernement, soit c'est nationalisé, soit c'est régulé. Et à ce moment-là, tu régules la rentabilité du capital investi, etc. Tu permets au gars de gagner du 7 ou 8% en fonction, tu fais des calculs savants, etc. Mais c'est plus le marché qui détermine l'offre et la demande, justement, parce que c'est une offre très longue. Si tu réfléchis là-dedans, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu demandes au gouvernement que l'AI devienne une utility. Que l'intelligence artificielle devienne un service public, en quelque sorte.
D'une certaine mesure, l'accès à l'information, si nous prenons l'habitude de travailler avec cette IA, ce qui a l'air d'être le cas, puisque de plus en plus de services juridiques, de services médicaux, désormais, vont travailler avec, alors oui.
Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que dans le fond, tout le monde fait l'idée que l'IA, ça va devenir comme l'Internet, un truc que le meilleur gagne est en voiture Simone. Mais si ça consomme des montants d'électricité tellement importants, etc., que ça nécessite en quelque sorte de réguler le prix de l'électricité pour l'IA, donc de réguler l'IA, tu peux te poser la question, est-ce que l'IA ne va pas devenir... un peu comme l'éducation nationale, un service public, quoi.
Sauf si, effectivement, les pourvoyeurs l'intègrent désormais dans leur R&D, quelque part, et s'en préoccupent en amont.
Mais d'abord, il faut qu'ils... À ce moment-là, j'ai vu que Microsoft avait acheté une ou deux centrales nucléaires.
Voilà.
Alors, ils peuvent essayer de faire ça. Il faut qu'ils l'intègrent, mais à ce moment-là, ça veut dire que le capital augmente et la rentabilité du capital diminue, plutôt que d'aller tondre le petit épargnant de base en lui faisant monter le prix de son électricité. Là, ça veut dire que Microsoft,
c'est l'actionnaire qui va toucher
l'actionnaire de Microsoft qui va devoir payer le vrai prix de l'augmentation de l'électricité, etc. Donc, c'est encore une fois une façon de le réglementer. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on voit très bien que tout le monde a acheté les États-Unis en partant du principe que l'IA n'allait pas être réglementée. Ben, je sais pas du tout, parce qu'ils peuvent tout à fait être alimentés par l'utilisation de l'électricité, quoi.
Oui, parce que encore une fois, il y a les politiques commencent à se saisir de cette question, et je pense que c'est logique parce que
encore une fois,
ça n'est pas aux petits de payer pour une hausse du coût de l'électricité, ce qui
une
est le cas pour l'instant.
Qui fera la fortune de Microsoft, qui en a pas besoin.
Ou de Nvidia à terme, et ainsi de suite, parce que tout ça est relié. Donc, si tu veux, c'est effectivement un petit peu logique dans un monde en plus inflationniste. Et ce qu'on vient de voir avec un dollar qui pourrait en plus dévaluer ainsi de suite, que le petit ne se prenne pas tout dans la face avec une hausse du coût de l'électricité,
en
ça
plus,
veut dire...
En plus, donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que cette croyance dans le capitalisme débridé, etc., c'était très bien, dans la mesure, si j'ose dire, ça n'augmente pas le prix de l'énergie.
Oui.
Mais si on arrive dans la fin des 30 ans dont je t'ai parlé, et si en plus le prix les demandes d'électricité explosent et ton frère arrive à la conclusion que les besoins d'électricité vont être tellement forts dans le monde entier qu'on va retourner au charbon.
Bah, j'ai envie de dire, en Chine, ils n'en sont jamais sortis.
La Chine n'en sont jamais sortis, non ?
Et nous avons
fait... Les États-Unis, ils ont toujours des très belles mines de charbon, merci.
Oui, bah écoute, j'ai envie
on
de dire, on va peut-être rouvrir la roue.
On va peut-être rouvrir la roue, oui, ça serait assez rigolo. Et ben voilà, et puis pour, encore une fois, pour lancer des centrales nucléaires, bon, les Chinois les font en 2-3 ans,
mais nous,
d'habitude,
il faudra 10 ans.
Nous, c'est plutôt 5-10 ans avec les hommes politiques qui décident que non, on a besoin de ceinture, de pantalon, de bretelles.
Et puis, il faudrait nettoyer un petit peu toute la glace politique de pastèque qui nous pompe notre économie.
Ça veut dire ça, c'est ce qu'on est en train de dire, tout ça, c'est quelque part, c'est l'effondrement intellectuel de la.
Mais complètement.
De l'écologie.
De l'écologie. Et
c'est
bien
complètement.
Évidemment.
Ça veut dire que. Tout ça, c'est du pipeau baratin. Et c'est là où on se rend compte que, dans le fond, il y a eu un vrai tentative de coup d'État. Parce que quand tu réfléchis, c'est que j'ai écrit des livres là-dessus, donc parce que ça me tracasse. Si tu veux prendre le pouvoir économique, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le contrôle de l'énergie. Et, dans le fond, l'Europe a pris le contrôle de l'énergie sous le contrôle des écolos. Et ils ont organisé un système de décroissance, puisque c'est à ça qu'ils croyaient. Mais le reste du monde n'a pas cru à ces bêtises. Donc, le reste du monde va sortir par le haut, et nous, on va sortir par le bas, parce qu'on a pris la stratégie exactement inverse de celle qu'il fallait faire, que faisaient les Chinois. Et pour essayer de contrôler également la population, ils ont collé le coup du Covid. Mmh. Qui était contrôlé les droits de réunion, etc., par la grande peur de la peste noire, quoi. Tu vois, c'était n'importe quoi. Donc, tu vois bien que dans les 10 ou 15 dernières années, il y a un mouvement de cette classe mondiale pour essayer de contrôler et l'énergie et l'information par l'intermédiaire du Covid, quoi. Et ça, c'est en train d'exploser. C'est en train de rater, mais de façon grotesque, quoi. Dire, ça pourrait pas, c'est un peu comme l'Union soviétique. Donc, tout est en place, comme disait un économiste, les cracks, ça se produit pas quand les gens perdent de l'argent, ça se produit quand les gens se rendent compte qu'ils ont perdu de l'argent. Tu vois, et qu'ils ont fufou, il y a toujours des valorisations qui se baladent là-haut, et puis non, pas du tout, ça vaut pas ça du tout, quoi. C'est, et alors, le drame, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont vécu sur les fausses valorisations.
Oui, et qui ont acheté, qui ont fait des emprunts, et qui se sont dit, ah bah, puisque j'ai gagné autant avec Nvidia, je peux donc acheter une maison de campagne. Ouais. Puis en fait, le jour où la mer se retire, ils se rendent compte qu'ils ont pas de maillot.
Exactement. Et donc, l'écroulement de cette fantaisie écologiste, crée les conditions d'un crack pour ceux qui ont cru. Et ce crack, il me semble être centré à Bruxelles, quand même.
Oui.
Tu vois, c'est là. Ceux qui ont vendu leur âme à ces idées, c'est les gars à Bruxelles, c'est Madame von der Leyen, etc. Et donc, ils vont devenir méchants.
Ah bah, de toute façon, c'est ce qui se passe. Ah bah, on le voit.
Donc, bien sûr. On a eu une grande période de croissance non inflationniste. Ça a été remplacé avec toutes ces interventions par des machins qui empêchaient la croissance, qui empêchaient la liberté d'information, etc. Bon, tout ça est en train de sauter. Et maintenant, on arrive dans la période où les pertes vont apparaître. Et je pense pas qu'elles vont apparaître en Chine.
Non.
Je pense pas qu'elles vont apparaître, peut-être pas tellement aux États-Unis parce qu'ils ont fait le gaz naturel et tout. Mais là où c'est dans les structures étatiques européennes que les pertes vont être considérables, parce que d'un seul coup, regarde déjà, on le voit avec l'arrêt des centrales nucléaires allemandes qu'avait déclaré cette bonne Madame Merkel sur un coup de sang, quoi. Ben, aujourd'hui, les Allemands sont dans une mer de noir parce qu'ils ont plus le gaz russe, ils ont plus le. Donc.
Alors, pour leur défense, ils devaient avoir normalement Nord Stream 1, Nord Stream 2 et ainsi de suite. Enfin, tout ça, normalement, était. On pouvait pas prévoir que les trucs allaient péter.
Non, on pouvait pas avoir les trucs à péter, mais comme leur avait dit Trump lors de son premier truc, il avait dit, moi je comprends pas très bien, pourquoi je devais garder 300 000
GI. Au sol.
au sol, alors que vous achetez toute votre énergie
En Russie.
en Russie. Pourquoi je dois défendre des gars contre qui vous, parce que si c'est le vent de l'énergie, vous êtes foutus. Donc il y a eu une croyance qu'on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Et le cul de la crémière en passant d'ailleurs, mais cette croyance européenne, elle est en train d'exploser. Donc il y a eu une espèce de tentative littéralement religieuse, théologique, de prendre le contrôle de l'économie par l'énergie et l'information. Et c'est en train de rater. Mais c'est la très bonne nouvelle.
Oui, bah espérons. Voilà. En tous les cas, j'ai l'impression que grâce à nos petits graphiques, encore une fois, on arrive à véritablement visualiser ce qui était un peu le but de cette émission.
Alors, ça aurait pu être une émission de l'Université de l'Épargne. C'est une université, on l'a fait pour l'Institut des Libertés, parce qu'on considère que l'Institut des Libertés, il est très très bien quelque part, parce qu'il est gratuit. Et donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu réserver à nos chers étudiants, mais en même temps, on veut continuer à informer les gens librement, on veut continuer à informer les gens sans qu'il y ait la contrainte de réserver les informations les meilleures à l'Université de l'Épargne.
C'est pas véritablement les meilleurs, c'est que
Il y a des moments où il faut parler aux autres.
on amorce des sujets. Ici, c'est un sujet général. Probablement que on l'affinera pour aller plus loin. En général, c'est ce qu'on fait. On travaille des sujets pour tout le monde à chaque fois dans
De culture
l'Institut
générale.
de culture générale dans l'Institut des Libertés. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le développement des connaissances qu'on vous a données, vous voyez, par
Pour les
exemple, si
rendre plus
ça.
pratiques.
Voilà, si ça vous intéressait, sachez qu'on ira sûrement plus loin à l'Université de l'Épargne, on creusera plus, on ira plus au fond du débat. Mais en règle générale, effectivement, on essaie de partager, surtout quand ce sont
Des nouvelles très importantes.
des choses importantes, comme en ce moment, donc, les hausses de toutes ces commodités,
Des
qui
matières
ont des matières
premières.
premières, des métaux précieux, qui est un sujet qui fait partie quand même de ce que vous avez dû lire et ce que vous allez lire dans les mois qui viennent. Et vous avez certains d'entre vous qui jouent sur les marchés ont vu effectivement combien l'argent avait pété à
Oui,
la hausse.
et c'est encore une fois cette hausse des métaux, etc. Ça ne nous surprend absolument pas.
Non,
J'ai
non.
montré, on savait pas comment ça allait partir dans les 2 ou 3 dernières
Non,
années,
bah
mais on
sinon on
savait
serait Madame Irma,
sinon c'est Madame Irma, mais en tout cas on savait que ça allait arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était bourré d'or. Mais parce que tout ça va de pair. Donc
Là, on est juste un peu surpris que tout ce qui soit cuivre, ainsi de suite, suivre avec autant d'empressement,
oui,
mais
ce qui
enfin,
veut dire que la
surpris, mais pas tant que
croissance est très
ça.
forte. Hein.
Oui. Ça veut dire que c'est vraiment une information renforcée. Encore une fois, le marché renforce
Ce qui était
l'intuition
qu'on avait
qu'on
depuis
avait depuis.
plusieurs mois.
Voilà.
Donc voilà, ça veut pas dire qu'on a raison, ça c'est.
Non, mais ça semble
Ça
être en tout cas ce que dit
veut
le
dire ce
marché.
que disait Keynes, qui était un homme extrêmement éminent et très intelligent. Il y avait un type qui l'engueulait parce qu'il avait changé d'avis. Et il avait répondu à ce monsieur, Monsieur, quand les faits changent, je change d'avis. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, j'en profite, je me suis fait gronder sur le site parce que la semaine dernière, j'ai dit l'esprit animal. Et je dis, mais l'esprit animal,
Animal spirit.
ça n'est pas de moi, sachez que c'est de
Non, mais
Keynes.
animal spirit, ça veut pas dire animal au sens, ça veut dire presque le réflexe brutal de l'Homo sapiens, tu vois.
Oui, mais.
C'est pas un animal.
Oui, mais en tout état
Ça
de
veut
cause.
dire interne.
En tout état de cause, c'est un terme qu'employait Keynes pour définir le fait de thésauriser, et il appelait ça des animal spirits.
L'animal spirit, c'est quand il s'essaie de thésauriser. Dans le fond, c'est le type qui a plein de testostérone. On lui dit les taux d'intérêt baissent, il se précipite pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, mais c'est
Dans le
une.
fond, c'est un excès de testostérone, l'animal spirit.
C'est un. C'est un. Quelque chose qui se dit.
Voilà, voilà, mais encore une fois, c'est des faux amis. Animal, en anglais, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'animal en français. Animal, ça ne veut pas dire bestial.
Non, c'est
animal spirit, ça veut dire une force interne, c'est de la testostérone.
Je pense qu'on pourrait le dire comme un cerveau reptilien ou quelque chose comme ça.
La testostérone, t'as plein de testostérone et tu vas casser la gueule du mec, quoi. Tu vois,
c'est quelque part le sous-jacent,
le côté sanguin.
Voilà. Ouais, comme lui.
Comme lui. Donc voilà, nous vivons des moments extraordinairement importants. C'est l'essentiel que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que cette transition, nous l'attendions, elle est en train de se passer. Il y a encore des tas de choses qu'on a essayé de dire qui devraient continuer à se passer, mais ça n'est pas une surprise.
Voilà. Bon, eh bien, écoutez, encore une fois, on a été ravis de vous informer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. J'y réponds avec plus ou moins de plaisir. Et je vous dis...
Et ceux qui trouvent que dans le fond, ça ne vaut rien, qu'on ne sert à rien, surtout qu'ils arrêtent de nous écouter.
Surtout, n'hésitez pas à les balayer devant votre porte, évidemment.
Bien évidemment.
Voilà, on vous dit à la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis. Merci.